Allô tout le monde, merci d'être là pour un deuxième épisode d'Histoire sordide. D'abord, on voulait juste vous remercier d'avoir été au rendez-vous pour le premier épisode. On est vraiment content que vous nous ayez suivis dans notre projet et que vous ayez entendu l'histoire de Jannick. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, notre compte c'est Histoire sordide au pluriel, donc histoire avec un S, sordide avec un S. Vous allez pouvoir y trouver les photos des victimes dont on parle et vous serez les premiers à savoir quand notre nouvel épisode est disponible. Aussi, pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, merci d'aller nous donner une belle note de 5 étoiles, rien de moins. Ça va nous aider à obtenir de la visibilité. Je m'appelle Marie-Pierre, je suis toujours avec mon ami Eric.
Hello!
Et aujourd'hui, on vous parle de la disparition toujours non résolue du jeune Ariel Jeffrey Kouakou. C'est important pour moi de parler d'Ariel aujourd'hui parce que c'est un dossier dont on a quand même beaucoup entendu parler en 2018 quand c'est arrivé. Pourtant, près de 3 ans plus tard au moment où on enregistre l'épisode, on n'a toujours pas résolu l'énigme de la disparition du petit Ariel. Et évidemment, comme pour toutes les disparitions non résolues, on finit par en parler beaucoup moins au fil du temps. Aussi, je veux juste préciser que j'ai pas entendu son nom complet mentionné très souvent, on l'appelle en général seulement Ariel, donc je vais continuer d'utiliser seulement son prénom. Le 12 mars 2018, vers l'heure du lunch, selon toutes les sources que j'ai consultées, le jeune Ariel, 10 ans, a quitté sa maison dans le quartier Aontic, quartier-ville à Montréal, pour aller jouer chez son ami Lucas. C'était un lundi, mais Ariel était en journée pédagogique à l'école. Son père, Quadio Frédéric Kouakou, était au travail. Sa maman, Aquela Noela, était en cours, puisqu'elle était étudiante à ce moment-là. C'est pas très clair si Ariel était seul à la maison, mais je crois comprendre que oui, il était seul. Le jour avant, donc le dimanche, Ariel avait obtenu la permission de sa maman d'aller jouer chez son ami pendant son congé du lendemain et il était vraiment content. Dans une entrevue réalisée par le Journal de Québec, les parents d'Ariel décrivent leur fils comme un petit garçon très sociable, qui avait toujours envie d'être avec ses amis et de jouer. Ils le décrivent comme un petit garçon vraiment attachant, amical, débrouillard, un peu distrait aussi. Comme plein d'enfants de son âge, c'est un passionné de jeux vidéo et de soccer. Une des choses qui me brise le cœur dans toute cette histoire-là, veux-tu savoir c'est quoi, Eric?
Oui, vas-y.
C'est que c'était la première fois qu'il allait chez son ami, seul.
Mm.
Son père a dit dans la même entrevue dont je viens de parler que, normalement, il l'accompagnait. Il a même dit que si c'était son ami qui venait à leur maison, il allait le reconduire après. Peux-tu imaginer? En tant que maman, je peux te garantir que c'est toujours des grosses décisions les premières fois que ton enfant fait quelque chose de nouveau, tout seul, même s'il le fait souvent avec un adulte avant. Alors que cette première fois-là se termine de façon aussi tragique, c'est juste incroyable.
En effet, ça brise le cœur.
À partir de là, ce qu'on sait de façon certaine sur les prochains déplacements d'Ariel, c'est qu'il s'est bel et bien rendu chez son ami, puisque une voisine de Lucas a par la suite confirmé qu'elle l'avait vu cogner à la porte. On sait que ça devait être aux alentours de 11h30. Ce qu'Ariel savait pas, c'est que son ami était pas à la maison. Quand personne est venu répondre, ben, il a rebroussé chemin. Les prochains mouvements d'Ariel, on les connaît grâce à des caméras de surveillance. Une des caméras de surveillance trouvées dans un garage sur la rue qu'Ariel a emprunté, le boulevard Gouin-Ouest, le montre en train de marcher après être reparti de chez son ami. Eric, je t'ai envoyé le lien. L'as-tu reçu?
Oui, j'ai reçu ton lien.
OK. Est-ce que tu peux l'ouvrir, le regarder et nous décrire un peu ce que tu vois?
Donc, ça a l'air d'une caméra de surveillance dans une station-service. On voit Ariel qui marche sur le trottoir le long du boulevard, tout bonnement. Là, il sort du champ de vision. Il est caché par une auto qui est stationnée. On le voit réapparaître. Ah, on dirait qu'il se retourne quand on le revoit réapparaître. C'est comme s'il avait fait un petit 180. C'est drôle. Quand il repasse à côté de l'auto, vraiment, on dirait vraiment qu'il se retourne comme si quelqu'un l'avait interpellé. C'est moi ou...
Non, c'est pas toi. C'est ce que j'ai vu aussi. En fait, on voit clairement qu'il se tourne à 2 reprises. Et pas juste un petit regard vers l'arrière subtil, là. On voit carrément ses pieds se tourner et regarder derrière lui. Ensuite, il ramène son regard vers l'avant et il poursuit son chemin. Une fraction de seconde plus tard, on le voit refaire le même mouvement. Quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de me dire que tu te retournes de cette façon-là quand on crie ton nom ou qu'on t'interpelle. Ou quand tu te sens en danger ou suivi, quelque chose comme ça. Personnellement, je trouve ça très troublant comme vidéo. Et je pense que tout le monde en la voyant a eu la même pensée. En fait, quand j'ai fouillé sur des forums et des pages Facebook, j'ai réalisé que les gens qui en parlaient avaient remarqué la même chose que nous. Je pense encore à ce jour que cette vidéo-là a rendu les choses plus compliquées à comprendre. Et c'est ce qui rend tout le monde un peu confus. On va en reparler un peu plus tard. Pour continuer sur son itinéraire du 12 mars 2018, Ariel est aperçu finalement par une autre caméra de surveillance en train d'entrer dans le parc des Bateliers. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'endroit, c'est un assez grand parc qui longe le quartier à Hunsic dans lequel vivait Ariel. On peut y accéder via le boulevard Gouin, sur lequel on place Ariel après qu'il ait rebroussé chemin de chez son ami. Donc, on comprend un peu le chemin qu'il a choisi de suivre jusqu'à présent. C'est à partir du moment où il entre dans le parc que ça devient flou. On a un témoin, une femme, qui a confirmé le jour même avoir vu Ariel vers 14h dans le parc des Bateliers. Selon un article dans Le Soleil, c'est un témoin très crédible, donc on a toujours cru cette version qu'Ariel se serait trouvée dans le parc, surtout qu'on le voyait y entrer. Cependant, on ne le voit jamais sortir. Dans un article publié sur le blog Missing in Canada, j'ai lu qu'une femme lui aurait parlé aussi proche du bord de l'eau, toujours dans le parc des Bateliers, et lui aurait même parlé. Elle lui aurait demandé ce qu'il faisait là à l'heure où il aurait dû être à l'école, et il lui aurait répondu qu'il était en journée pédagogique, ce qui était vrai. À ce moment-là, les parents ne se doutent pas du tout de ce qui est en train de se passer, puisqu'ils sont au travail et en cours. Plus tard dans la journée, la mère d'Ariel revient à la maison après avoir terminé ses cours et après être allée chercher sa fille, la petite sœur d'Ariel, à la garderie. Comme elle avait donné la permission à son fils d'aller jouer chez Lucas, c'est là qu'elle le pense, et elle n'est pas étonnée de ne pas le trouver à la maison. Elle va donc le chercher là-bas en fin d'après-midi. Mais quand il cogne à la porte, la maman de son ami lui répond et lui annonce que « Non, Ariel, il n'est pas là. » Le cœur de la maman d'Ariel a juste dû faire 1000 bon, écoute. Moi, j'ai déjà passé comme une minute que mon garçon avait disparu et encore aujourd'hui, je me rappelle exactement de la sensation de panique que j'ai ressentie. J'ai même composé le 911 et on s'entend, là, ça faisait vraiment pas longtemps que je l'avais perdu de vue. Finalement, quelqu'un m'a dit qu'il le voyait et j'ai raccroché rapidement. Mais malgré tout, j'avais eu le temps de penser que ma vie pouvait venir de changer à tout jamais. C'est sérieusement la pire sensation du monde. À partir de là, tout se passe assez vite et beaucoup de choses se mettent en place. Les parents signalent immédiatement sa disparition à la police. D'abord, la police de Montréal se met à chercher partout et c'est comme ça qu'ils sont capables de trouver les caméras de surveillance et de retracer le chemin d'Ariel. Ils se mettent à fouiller les boisés, les parcs, les routes et évidemment la rivière des Prairies, qui se trouve le long du parc des Bateliers. Dès le début, la disparition d'Ariel est prise au sérieux. Je le mentionne parce que je trouve qu'on entend beaucoup d'histoires d'horreur sur les disparitions de personnes qui commencent trop tard ou pour lesquelles les policiers attendent trop longtemps avant de débuter leur enquête, mais dans ce cas-ci, c'est pas du tout le cas. Et dès le début, les parents d'Ariel sont convaincus qu'il s'est fait enlever. Pour d'autres, l'hypothèse de l'accident, comme quoi Ariel serait tombé dans la rivière, par exemple, est celle qui fait le plus de sens. Mais les parents d'Ariel n'y croient juste pas. Dans à peu près toutes les entrevues qu'on peut lire ou voir qu'ils ont données, ils répètent que le parc n'était pas un endroit qu'Ariel fréquentait et qu'il n'y allait jamais avec lui, et donc qu'il ne se serait pas aventuré là sans connaître l'endroit. Selon eux, Ariel aurait su qu'il devait être prudent aussi. Bon, c'est certain que oui, c'est une hypothèse plausible qu'il soit tombé dans la rivière et que celle-ci l'ait emporté. Au moment des faits, il faisait froid. Est-ce que l'eau était glacée et ça lui a tenté de se promener sur la rivière? C'est possible, j'imagine. Mais je crois les parents d'Ariel qui disent que c'était pas dans ses habitudes. Il reste qu'on sait jamais vraiment comment un garçon de 10 ans peut réagir. Je me rappelle qu'à 10 ans, ça me tentait souvent de tester les limites imposées par ma mère et de m'aventurer un peu plus qu'elle me le permettait. Et même des adultes responsables chaque année se noient ou tombent dans des étendues d'eau qu'ils pensent plus glacées qu'elles le sont réellement parce qu'ils ont un moment d'inattention ou qu'ils ont baissé la garde le temps d'un instant. Et on s'entend, il suffit d'une minute pour que tout bascule rapidement. Le lendemain, donc le mardi 13 mars, une alerte Amber est déclenchée. Le service de police explique qu'en raison du froid important et du fait que ça fait plus de 24 heures qu'Ariel est disparu, il faut le retrouver au plus vite. Le but avec une alerte Amber, évidemment, c'est de retracer l'enfant. Mais c'est aussi de distribuer l'information à une échelle plus importante pour solliciter la population à appeler avec des informations qu'elle pourrait avoir. Avec une alerte Amber, on a de la visibilité, et ça, ça aide une enquête. Selon le site alerteamber.ca, il faut que le dossier réponde aux trois critères sans exception et simultanément pour que l'alerte soit déclenchée. Les critères, c'est le service de police a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant a été victime d'un enlèvement. 2. Les circonstances entourant l'enlèvement indiquent que l'enfant risque de subir des lésions corporelles graves ou qu'il est en danger de mort. Et 3. Le service de police possède suffisamment de renseignements descriptifs sur l'un ou plusieurs des éléments suivants. L'enfant, le suspect, le moyen de transport utilisé, qui permettent de croire que la diffusion immédiate de l'alerte aidera à retracer l'enfant.
Mais là, est-ce qu'on avait des raisons de croire qu'Ariel avait été enlevée?
Pas spécifiquement, non. Du moins, pas selon ce que j'ai pu trouver dans mes recherches. Cependant, j'imagine que c'était une possibilité qu'ils étaient obligés d'envisager à ce moment-là. Mais le fait qu'il fallait retrouver Ariel parce qu'il faisait vraiment froid, ça répondait à un critère. Aussi, on avait une belle description d'Ariel étant donné qu'on l'avait même sur caméra de surveillance ce jour-là. Donc, on pouvait savoir exactement ce qu'il portait. Mais en fin de soirée le jour même, donc moins de 24 heures après avoir été déclenchée, l'alerte Amber est levée. Le SPVM explique que ça n'empêche en aucun cas que l'enquête continue, mais qu'à ce stade-ci, ils n'ont pas ce qu'il faut pour le garder en place. Évidemment, c'est une décision avec laquelle la famille n'est pas d'accord, on peut les comprendre. Mais dans un article que j'ai trouvé qui a été publié par le journal Le Soleil, l'enquêteur du Rocher explique que l'électrochoc qu'il voulait donner à la population avec l'alerte Amber a porté fruit, puisqu'ils ont reçu beaucoup d'informations grâce à ça. C'est d'ailleurs grâce à cette alerte que la police a été mise en contact avec la dame qui place Ariel dans le parc le jour de sa disparition. Le jour même, les parents décident d'offrir une récompense de 10 000 $ à quiconque pourra les aider à retracer la trace d'Ariel. Le boxeur québécois Adonis Stevenson a aussi offert 15 000 $ de plus, un geste vraiment généreux. En plus des recherches qui sont effectuées sur la terre ferme, le SPVM utilise des brise-glaces sur la rivière des Prairies, question de chercher dans l'eau également. Ils vont chercher sur la rivière pendant un mois avant de déterminer que les eaux sont trop dangereuses pour les plongeurs. Avec la fonte des glaces qui crée du courant et tout ça, c'était rendu trop risqué. La police survole aussi la rivière et le parc à l'aide d'un hélicoptère, en plus d'utiliser un shapester qui provient de la Gendarmerie royale du Canada ou GRC de la Nouvelle-Écosse, spécialisé dans les recherches sur la glace et dans l'eau. Dans un article du Huffington Post, j'ai lu qu'ils avaient aussi utilisé des drones pour survoler la place. Moi, je me demande juste, qu'est-ce qui fait que la police focus autant sur la thèse de l'accident près de la rivière des Prairies? Je comprends que les enlèvements sont pas fréquents, car il est entré dans le parc et n'en est pas ressorti, mais en même temps, est-ce qu'il y a des caméras de surveillance à toutes les sorties du parc? Parce que, tu sais, j'avoue que 10 ans, c'est pas non plus si jeune que ça. Alors, si les eaux étaient glacées ou qu'il y avait du courant, est-ce qu'Ariel aurait vraiment été portée à aller jusque-là? Qu'est-ce qui aurait pu l'emmener là? Et s'ils ont juste décidé de prioriser cette thèse-là puisque rien n'indiquait le contraire, est-ce qu'ils auraient pu, en agissant ainsi, faire en sorte que d'autres éléments soient un peu mis à l'écart et moins mettre d'énergie sur d'autres informations qu'il aurait pu avoir? Parce que dès le début de l'enquête, dans tous les articles que j'ai pu trouver, ou presque, on dit clairement que la thèse privilégiée par le SPVM, c'est l'accident. Mais moi, je dois avouer que je pense encore à la vidéo d'Ariel qui se retourne sur la caméra de surveillance. Quand je mentionnais au début que c'est la vidéo qui avait tout compliqué pour moi, je voulais dire que sans cette vidéo-là, je pense que j'aurais été moi aussi plus apte à privilégier la thèse de l'accident ou de la noyade. Mais le fait qu'on le voit se retourner, pour moi, ça change tout. En fait, c'est que ça met un doute dans mon esprit. Mais il y a aussi le fait que ses parents soient certains à ce point qu'Ariel se soit fait enlever. Tu sais, veux pas, je me questionne. Il y a aussi une partie de moi qui se dit que, en tant que parent, si tu privilégies la thèse de l'accident, ça veut dire que tu dois accepter le fait que tu reverras jamais ton enfant. Et ça, je pense que ça doit être extrêmement difficilement accepté. Si tu penses que peut-être il s'est fait enlever, tu peux garder quand même un minuscule espoir de le revoir vivant un jour. Et je pense qu'en tant que parent, tu t'accroches à cet espoir-là comme à une bouée de sauvetage. En fait, je suis vraiment pas sûre de ce que je crois pour le moment. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
À la lumière de tout ce que tu nous as conté, et aussi triste que ça puisse être, j'ai vraiment l'impression que la thèse de la noyade est la plus probable. Oui, peut-être qu'il manque un peu de preuves pour l'appuyer, mais dans les circonstances, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus réaliste à penser.
Mm-hmm. En juin 2018, donc 3 mois après les événements, le service de police de la ville de Montréal annonce qu'il est à la recherche d'une femme qui aurait été vue en train de fumer une cigarette sur le bord de l'eau au parc des Bateliers le matin de la disparition d'Ariel, un peu avant midi. Mais on sait qu'il a été aperçu après ça. Donc le but, selon la police, de parler avec cette femme, ce serait de voir si des enfants jouaient sur le bord de l'eau, d'essayer de comprendre en fait ce qui aurait possiblement pu se passer. Une autre des raisons qui fait que la famille doute de la thèse de l'accident, c'est que pendant les fouilles effectuées entre mars et juillet dans la rivière, plusieurs corps ont été repêchés, mais pas celui d'Ariel. Pour eux, c'est juste une autre preuve que c'est pas ça qui est arrivé à leur garçon. Honnêtement, pour moi, c'est un des plus grands mystères qu'on n'ait jamais rien retrouvé d'Ariel. Pas même une chaussure, un morceau de vêtement, rien. Un an après les événements, la Société de transport de Montréal a affiché la photo d'Ariel partout dans ses stations de métro. Le réseau Enfants Retour, un organisme super important qui, entre autres, assiste les parents dans la recherche des enfants qui sont disparus, a chapeauté cette démarche-là, ainsi que bien d'autres. Le but de tout ça étant évidemment de continuer à parler d'Ariel et de solliciter la population qui pourrait avoir une information à contacter les services de police. En 2019, un artiste d'origine colombienne, Julian Palma Luque, a peint une murale en l'honneur d'Ariel dans le quartier Rosemont à Montréal. Elle est simplement magnifique, et les parents d'Ariel étaient vraiment touchés de voir ça. Pour l'artiste, c'était une façon de démontrer que l'événement l'avait touché lui aussi. Comme nous tous. Quelques mois après la disparition de leur garçon, Quadio et Aquila ont écrit une lettre au présumé ravisseur d'Ariel. Dans la lettre, ils lui écrivent qu'ils sont prêts à le pardonner. En entrevue avec le Journal de Montréal, la maman d'Ariel a dit, et je la cite, « Je parle comme s'il était présent. Chaque dimanche, avant d'aller à l'église, j'enlève toujours ses habits, comme j'ai l'habitude de le faire, pour lui dire « Aujourd'hui, c'est ce que tu portes. » J'allume toujours la veilleuse de sa chambre. J'ouvre la porte de sa chambre parce qu'il n'aime pas dormir la porte fermée. Je fais pareil comme s'il était là. » Encore aujourd'hui, presque 3 ans jour pour jour après la disparition d'Ariel au moment où on enregistre l'épisode, ils gardent espoir. Espoir qu'ils pourront retrouver Ariel, qu'ils pourront le serrer dans leurs bras. C'est ce qui les garde en vie. Si vous avez des informations à propos d'Ariel, contactez le service de la police de Montréal, Infocrime ou encore l'organisme Enfants Retour.